Les nuits de France Culture.
Si, pour certains d'entre nous, la fin du monde sonne comme un horizon lointain, comme une idée vague d'une catastrophe fictive, pour d'autres, elle est une possibilité concrète, matérielle, prédite par les données d'une science plus avancée que jamais. La progression fulgurante du réchauffement et du dérèglement climatique provoque ce que l'on appelle l'éco-anxiété, une anxiété liée à la destruction des possibilités d'existence pérenne de l'espèce humaine, sur une Terre vouée à devenir inhabitable. Si cette prophétie des temps modernes semble inédite, et l'est du fait de sa rationalité incontestable, nous ne sommes pas les premiers à vivre avec l'idée d'une fin du monde imminente. Outre les élucubrations millénaristes diverses et variées, entourant le passage à l'an 1000, à l'an 2000, ou encore au 21 décembre 2012, les premiers chrétiens vivaient eux aussi la fin du monde comme quelque chose d'imminent, qui serait annoncé par le retour du Christ et qu'ils verraient de leurs propres yeux. Si l'Église catholique a perdu aujourd'hui ce goût prononcé de l'eschatologie, il n'en demeure pas moins que les grands philosophes, loin de se moquer de cette idée peut-être archaïque, en font un objet de pensée centrale. Emmanuel Kant lui-même explique dans « La fin de toute chose » qu'il est dans la nature de la raison humaine de vouloir penser la fin, dans la mesure où il est impossible pour la raison de se représenter l'éternité. C'est sur la place de la fin du monde dans la philosophie et dans nos croyances que revient ce numéro des Nouveaux Chemins de la Connaissance d'Adèle Van Rett, qui invite pour l'occasion le philosophe Michael Fossel, dans une émission diffusée pour la première fois le 9 février 2012.
Cette émission ne tournerait pas bien rond sans Geneviève Méric, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Ivy Paolo Antonacci et Tristan Gonassia, avec à la réalisation cette semaine François Connac et à la prise de son aujourd'hui Cédric Châtelus. À 10h50, vous retrouverez comme tous les jours François Nudelmann pour le Journal de la Philosophie. François qui recevra Marc-Alain Wachnin pour l'alphabet expliqué aux enfants, paru aux éditions du Seuil. Et fin aujourd'hui de notre semaine consacrée au monde avant sa fin. Après l'astrophysicien Hubert Reeves venu lundi nous conter l'origine de l'univers, Paul Ratto mardi qui nous a présenté la théorie du meilleur des mondes possibles chez Leibniz et Étienne Tassin qui nous a parlé de monde commun et de mondialisation hier mercredi, c'est aujourd'hui en compagnie du philosophe Michael Fossel que nous allons faire advenir en temps réel les conditions nécessaires à la pensée de la fin du monde. Car le monde va finir, paraît-il, et nous n'avons pas eu besoin des Mayas pour le savoir. Car si l'univers est en expansion, le terme même de « monde », lui, implique une totalité, donc un ensemble clos et fini. La fin du monde est donc inscrite dans l'idée même de monde. Mais de même que nous savons que notre vie va finir sans savoir quand elle prendra fin, de même nous ne pouvons assigner une date à la fin du monde. Se demander quand le monde va finir, c'est déjà transposer l'idée de fin, contenue dans l'idée de monde, au sein d'une dimension temporelle. Or, avons-nous les moyens de maîtriser la temporalité propre au monde ? Quel impact a cette peur de la fin du monde sur nous qui vivons, agissons, cherchons à donner un sens à notre vie ? À moins que ce ne soit précisément l'idée même de la fin qui nous donne de bonnes raisons d'agir et de vivre.
Sincèrement, je n'y crois pas. Pour la bonne et simple raison que ça ne va pas exister. Ils ont toujours dit que voilà, il y aura la fin du monde des années antérieures et cela ne s'est jamais donc produit. Raison pour laquelle, en tant que chrétien, je crois en Dieu que lorsqu'il y a la fin du monde, c'est pour donc tout un chacun de nous attendra donc sa mort. Et voilà la fin du monde.
Vous y croyez, vous, ou non ?
Non, on ne sait pas si Dieu vraiment, il n'a pas dit une date précise à la fin du monde. Quoi. Il dit, on voit les actualités qui se passent en ce moment, mais on ne sait pas la date vraiment qu'il lui a dit, quoi. Que Dieu a dit, quoi.
Je suis chrétien, évangéliste, il n'y a pas de fin du monde maintenant.
Il faudrait que citer Albert Einstein qui avait dit il y a déjà longtemps de ça maintenant. Je ne pense pas, l'avenir vient assez tôt. sachons prendre les choses en leur sens et ne chercherons pas à les anticiper.
Non, tant que quelqu'un n'appuie pas sur un bouton de bombe atomique, je crois que voilà quoi, ça continuera encore.
Dans les, tous les calendriers de Maya, c'est des bêtises alors?
Ah, ça je connais pas, mais ça fait longtemps déjà qu'on prédit la fin du monde, à des dates différentes, que je ne connais pas, mais je sais que c'est la fin du monde, elle est prévue depuis la nuit des temps, déjà depuis la création du monde, donc voilà. Non, je pense que c'est pas encore le moment, heureusement.
Les sept anges aux sept trompettes s'apprêtèrent à sonner, et le premier sonna. Il y eut alors de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut consumé, et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. Et le deuxième ange sonna, alors une énorme masse embrasée comme une montagne fut projetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Il périt ainsi, le tiers des créatures vivant dans la mer, et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna, alors tomba du ciel un grand astre brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources. L'astre se nomme Absinthe. Le tiers des eaux se changea en absinthe, et bien des gens moururent de ces eaux devenues amères. Et le quatrième ange sonna. Alors furent frappés le tiers du soleil, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Ils s'assombrirent d'un tiers, et le jour perdit le tiers de sa clarté, et la nuit de même. Et ma vision se poursuivit. J'entendis un aigle volant au zénith et criant d'une voix puissante « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause de la voix des dernières trompettes dont les trois anges vont sonner. »
Bonjour Michael Fassel.
Bonjour Adèle.
C'est avec vous que nous allons terminer cette semaine sur Le Monde, intitulé Le Monde avant sa fin, et nous sommes arrivés à la fin du monde, en tout cas à la fin de la semaine. Vous y croyez à la fin du monde ?
En tous les cas, je crois aux peurs qui portent sur elle. Et j'ai beaucoup plus peur d'ailleurs des peurs qui portent sur la fin du monde que de la fin du monde elle-même. Mais ce qui me paraît important, en rapport avec le texte que vous avez lu de l'Apocalypse, c'est de comprendre pourquoi la fin du monde, quelles sont les conditions de possibilité de la fin du monde finalement. Et la première chose qu'il faut rappeler, c'est que par définition, il ne peut y avoir de fin du monde que si le monde a eu un commencement. Et que par conséquent, cette idée, cette peur, cette angoisse de la fin du monde, elle est intrinsèquement liée aux conceptions créationnistes des religions monothéistes, juives, chrétiennes et dans une certaine mesure islamiques. Pour les Grecs, par exemple, l'idée d'une fin du monde était totalement impensable dans la mesure où ils avaient une conception du cosmos éternel. Et par conséquent, pour eux, le monde n'a pas été créé et donc il ne peut pas finir. En revanche, ce qui fait la spécificité des religions monothéistes, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, la croyance selon laquelle le monde a été créé, rend possible cette peur ou cette attente d'ailleurs de sa fin. Je dirais de cela d'une manière différente. C'est un thème très important, je crois que vous l'avez évoqué quand vous parliez de Leibniz mardi. Le monde est contingent, hein, ce qui est une idée propre là aussi aux religions monothéistes, c'est-à-dire qu'il pourrait ne pas être. Alors que les Grecs, encore une fois, considéraient que le monde était non seulement éternel, mais absolument nécessaire, qu'il ne finirait jamais parce qu'il n'avait jamais commencé. Alors que, précisément, dans la croyance selon laquelle le monde a été créé par Dieu ex nihilo, il a été créé à partir de rien par Dieu, eh bien, se glisse déjà l'attente qu'il pourrait ne pas être et donc qu'un jour, il cessera d'être.
Encore faut-il savoir ce qu'on entend par monde, puisque lorsque vous prenez l'exemple des Grecs, justement, avec ce monde nécessaire, ce monde qui a lieu de toute éternité et qui n'est pas créé, ça n'exclut pas pour autant toute pensée de la contingence, puisque justement, si on prend la façon dont Aristote pense le monde sublunaire d'un côté, le monde supralunaire de l'autre, le monde sublunaire est le monde humain dans lequel l'homme peut se mouvoir, du fait même de cette contingence, le monde dans lequel l'homme peut éprouver sa liberté. Lorsque vous parlez du monde créé, vous parlez Du globe? De l'univers? De quoi parlez-vous précisément?
Oui, la contingence que, par exemple, Aristote reconnaît dans le monde, c'est une contingence intramondaine, si j'ose dire. C'est la contingence de ce qui se passe dans le monde. Mais ça n'implique pas que le monde lui-même soit contingent, c'est-à-dire que sa réalité même puisse disparaître. Donc, lorsque dans les religions chrétiennes ou dans la religion juive, hein, le premier grand texte apocalyptique, c'est le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de la fin du monde, c'est la fin de toute chose sensible, si vous voulez, non seulement du monde humain, mais de tout ce qui, je dirais, dans le réel n'est pas Dieu. Bon. Et alors, au profit, évidemment, d'une nouvelle réalité, hein, c'est ce que dit le terme apocalypse. Apocalypse, cela veut dire révélation, éventuellement d'ailleurs d'un nouveau monde, mais qui est surtout marqué par, en l'occurrence, si l'on en reste cette fois-ci, ou si l'on en revient cette fois-ci au christianisme, par le retour en gloire du Christ, c'est-à-dire par ce moment espéré, attendu et en même temps craint, où le monde est vaincu, il est vaincu par Dieu. Je rappelle que dans la religion chrétienne, Jésus est vaincu par le monde. Le Christ est vaincu par le monde puisqu'il est crucifié. Et donc, en quelque sorte, le christianisme installe ceux qui, les fidèles, les croyants, installe dans un moment, je dirais, d'attente, hein, de la gloire, du retour en gloire du Christ. Et l'Apocalypse, c'est précisément cela. Mais évidemment, c'est une Apocalypse qui est à la fois espérée, hein, puisque c'est le retour en gloire du Christ, c'est la victoire sur le monde, mais en même temps, elle est crainte, puisque toutes les forces de ce monde, ce que disait bien ou ce qu'exprimait bien l'extrait que vous avez lu, toutes les forces de ce monde, naturelles en particulier, rentrent dans une espèce d'immense destruction, une espèce de tsunami gigantesque, tellurique, qui emporte avec lui aussi l'humanité.
Mais lorsque vous dites que dans une logique chrétienne, la fin du monde est espérée, attendue, puisque l'Apocalypse est précisément la fin du monde dans lequel nous vivons, et donc l'avènement sans doute d'un nouveau monde, d'un royaume, en tout cas du royaume de Dieu, lorsque vous dites cela, vous pointez bien la façon dont la question de la fin du monde soulève un problème d'ordre temporel déjà. Qu'est-ce que ça veut dire attendre la fin du monde? On sait bien que cette fin du monde risque de ne pas arriver au cours de notre vie. On a là un décalage, une disproportion temporelle entre notre vie individuelle et l'attente, elle, qui est beaucoup plus religieuse.
Nous le savons précisément parce que nous ne sommes plus des chrétiens primitifs. Mais la grande différence, si vous voulez, entre l'eschatologie, c'est l'ensemble des doctrines sur la fin du temps. Bon. Entre l'eschatologie juive et l'eschatologie chrétienne, c'est que, en tout cas chez les chrétiens de l'origine, si je puis dire, la fin du monde était attendue comme absolument proche, comme absolument imminente. Hein, la temporalité de cette fin, c'est son imminence, puisque même Jésus dit « les temps sont accomplis, le royaume est proche ». Et par rapport à nous, évidemment, il y a une grande différence, si je puis dire, parce que pour les premiers chrétiens, et Saint Paul en est le symbole, si je puis dire, cette fin du monde, elle est annoncée par la résurrection du Christ, et elle doit, en quelque sorte, arriver encore dans la vie. Enfin, c'est en tout cas, ils sont convaincus qu'elle arrivera encore dans leur propre vie. Et donc, c'est cette idée que nous vivons, et je crois que c'est une idée qui est importante pour comprendre pourquoi la fin du monde est à ce point, continue à ce point d'être un fantasme humain. Ce n'est pas tellement l'idée que le monde va finir, ce n'est pas tellement l'idée qu'il y a un temps qu'il y a une fin du temps, mais que nous sommes dans le temps de la fin, que nous sommes dans le délai. C'est-à-dire que entre le moment où le Christ a ressuscité et le moment où il reviendra, donc où il a rejoint son Père, et le moment où il reviendra dans sa gloire, eh bien il y a un intervalle, et que cet intervalle, nous le vivons, c'est celui dans lequel nous vivons, que donc le monde est d'une certaine manière déjà condamné, il est déjà fini, il n'y a plus qu'à attendre et peut-être même promouvoir sa disparition définitive.
Ce qui est une façon, du coup, de dévaloriser la vie humaine en tant que telle et de rendre toute action et toute valeur qu'on pourrait accorder à la vie vaine, puisque la vie humaine n'est qu'attente. Et donc peut-être la pensée ou la conviction que la fin du monde non seulement est proche, mais qu'elle est nécessaire et inéluctable, a des conséquences en tout cas déterminantes quant à toute forme de politique, d'éthique et de vivre ensemble humain.
Absolument, et c'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'on y reviendra, là, le thème de la catastrophe ou de la fin du monde a un sens fondamentalement politique et éthique. Et on le trouve si on lit par exemple l'épître aux Corinthiens de Saint Paul, lorsque Saint Paul prédique, c'est-à-dire justement annonce en quelque sorte la fin du monde et va se poser immédiatement la question, si ce n'est pas lui qui la pose, on la lui pose, mais que faut-il faire en attendant la fin du monde, hein? Que faire face à cet événement que nous espérons, nous chrétiens, mais non, sur lequel nous n'avons pas de prise. Eh bien, la réponse de saint Paul, une de ses réponses les plus célèbres, c'est de dire, je le cite de mémoire, « Il faut jouir comme si nous ne jouissions pas, aimer comme si nous n'aimions pas, être propriétaire comme si nous n'étions pas propriétaires, en quelque sorte vivre, mais dans le suspens, comme si nous ne vivions pas. » Parce que, encore une fois, nous sommes installés dans son idée dans un intervalle, et cet intervalle, évidemment, est dévalué dans son sens. Le monde dans lequel nous vivons est dévalué dans son sens par rapport au monde vrai, si je puis dire, qui est l'abolition de tous les mondes, le retour du Christ. Et donc, c'est toute la difficulté, si vous voulez, qu'ont rencontré les premiers chrétiens, que de savoir, finalement, y a-t-il une morale valable encore, dès lors que le monde est déjà condamné. C'est d'ailleurs très intéressant de voir saint Paul, dans d'autres épîtres, aux Thessaloniciens en l'occurrence, revenir vers les Thessaloniciens et leur expliquer en substance que, bon, d'accord, si je puis dire, le monde va terminer, mais ça n'est pas une raison pour sombrer dans l'anomie, c'est-à-dire dans la luxure, dans la fin totale de toute moralité. Et donc, on voit saint Paul revenir vers les Thessaloniciens et leur expliquer que même si le monde va finir, même si nous sommes certains que le Christ va revenir, eh bien, il faut nécessairement de la loi, de l'ordre symbolique, en quelque sorte, pour éviter l'anarchie toujours liée, en fait, à cette attente de la fin du monde.
C'est une question qu'on a vue toute cette semaine, hein, surtout mardi dernier, lorsqu'on parlait de Leibniz, en effet, puisqu'à partir du moment où l'on sait que où Dieu sait ce qu'il va advenir du monde et des humains, puisque c'est lui qui a choisi de faire passer à l'état d'existence un des mondes possibles, parmi tous les mondes qu'il avait à disposition, alors, dans ce cas, se pose pour l'homme la question savoir, mais alors que reste-t-il à faire si je suis prédéterminé, si Dieu sait par avance ce qu'il peut m'arriver, quels sens y a-t-il à agir? Et donc, ça, il est intéressant de voir que le thème même de la fin du monde a, de par la disproportion avec la vie humaine, puisqu'on met la fin du monde dans un autre registre, un autre domaine que celui de notre expérience vécue, eh bien ce thème-là a pour conséquence la question une question proprement pratique, qui est de savoir que faire de notre vie. Et alors, quand on réfléchit à la fin du monde, ce n'est pas le premier thème qui nous vient à l'idée. On a plutôt tendance à l'associer au terme de catastrophe, d'apocalypse, et non pas à une question finalement assez triviale et essentielle du choix de vie.
C'est la question de savoir ce que l'on fait du temps qui reste. Et vous savez qu'il y a un jeu un jeu imaginaire auquel nous avons tous joué, adolescents ou plus tard d'ailleurs. Que ferais-tu s'il te restait 24 heures à vivre? Bon. C'est-à-dire comment trouver un mode de vie suffisamment intense dans un temps fondamentalement restreint pour en quelque sorte atteindre une intensité, une vérité qui nous est, la fin du monde annonce d'une certaine manière la disparition. Alors, je dirais, il y a deux questions dans la thématique de la fin du monde. La première, c'est quand, et la seconde, c'est comment. Et en un sens, on peut dire, si on en revient encore d'un instant aux évangiles, enfin, ou plutôt au Nouveau Testament, que saint Paul, c'est plutôt la question quand, hein, qu'on lui adresse, et l'Apocalypse, dont vous avez lu un passage, c'est comment. Alors, l'annonce des trompettes, etc., des anges. Bon. Mais ce qui est tout à fait remarquable et très important pour comprendre l'histoire de l'Occident, somme toute, c'est ce qu'on appelle le retard dans la parousie. C'est-à-dire, précisément, la parousie,
c'est
le moment.
C'est l'attente du Messie. Hein.
Voilà, c'est plus exactement sa présence. C'est le moment où il revient. Précisément, les premiers chrétiens, je l'ai dit, attendaient cette parousie comme imminente. Or, bon, nous avons tous constaté, nous constatons encore, et nous ne pouvons, dès lors que nous parlons, que constater, que cette parousie n'a pas eu lieu. Et donc, cela va considérablement transformer, si vous voulez, on peut dire les choses de manière peut-être un peu massive, transformer le réel, l'Occident, parce que, évidemment, il faut une Église, dans ce cas-là, qui témoigne du monde, une Église chrétienne qui témoigne, une institution, je veux dire, qui témoigne du monde, dans le monde, du fait que le monde est fragile ou qu'il finira un jour. Donc toute la réflexion institutionnelle, par exemple, qui se met en place dans le christianisme, en rapport évidemment avec l'Empire romain, tout cela naît du fait qu'encore une fois, cette fin du monde proclamée, annoncée par le Christ, n'est pas advenue. Et donc comment rendre compatible, en quelque sorte, l'existence de Dieu avec la permanence du monde? Je dirais que, avec Leibniz, la question, c'est comment rendre compatible l'existence du mal avec la justice et la bonté de Dieu. Eh bien, en deçà de cette question, il y a un problème, effectivement, de nature pratique. Comment rendre compatible l'annonce, la promesse apocalyptique et le fait que le monde perdure? Et évidemment, cela peut aussi créer un certain nombre de réactions, de ressentiments à l'égard du monde. Qu'est-ce que c'est, en quelque sorte, que ce monde identifié au mal qui persiste en dépit de notre attente, de nos espérances eschatologiques sur sa fin.
Et cette question de l'attente même de la fin du monde et de savoir ce que nous pouvons faire en attendant la fin du monde se pose à différentes échelles. Elle se pose également pour celui ou celle qui craint, qui redoute la fin du monde, qui la sent proche et qui du coup cherche à adopter l'attitude qui convient à cette fin annoncée. C'est exactement le thème d'un film qui est sorti récemment sur nos écrans de Lars von Trier qui s'appelle Mélancolia, où on a justement l'annonce d'une planète nommée Mélancolia, ou d'une comète d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une planète bleue, hein, qui s'approche du monde. On ne sait pas s'il va venir s'écraser sur la planète Terre ou pas. Et à partir du moment où cette fin devient assez, beaucoup plus que probable, très certaine, où il est quasiment certain que la planète elle-même va venir s'écraser sur la planète Terre, eh bien les personnages se posent cette question-là de savoir que reste-t-il à faire, ce qui induit un changement de personnalité au sein des personnages tels qu'on avait pu les découvrir au cours du film. Je vous propose de l'écouter tout de suite. I want us to be together when it happens. Maybe outside on the terrace. Help me to stay. I want to do this the right way. You better do it quickly. A glass of wine together, maybe. You want me to have a glass of wine on your terrace? Yes. Will you do it, sis? How about a song? Beethoven's Ninth. Something like that? Maybe we could light some candles? You want us to gather on your terrace to sing a song? Have a glass of wine. The three of us. You know what I think of your plan? No. I was hoping that you might like it. I think it's a piece of shit. Quand les deux personnages centraux du film Mélancolia, que sont Justine, interprétée par Kirsten Dunst, et Claire, interprétée par Charlotte Gainsbourg, sentent et savent que la planète va être détruite par la collusion avec l'autre planète, justement Mélancolia, alors Claire, le personnage de Claire, qui jusqu'à présent s'occupait de sa sœur Justine, qui elle-même était extrêmement mélancolique, voire neurasthénique, complètement dépressive, n'arrivait plus à vivre. Claire, qui s'occupait de Justine, devient elle-même complètement paniquée par cette fin proche. Et elle propose à Justine de faire quelque chose pendant les minutes qui lui restent avant la fin du monde. Et elle lui dit, on l'a entendu dans l'extrait, hein, allons boire un verre de vin sur la terrasse, écoutons une chanson, passons un moment ensemble. Il y a énormément de choses dans cet extrait. Déjà, on l'a laissé en version originale pour entendre ce murmure des voix qui est très symptomatique, il me semble. Et on entend, au fond, en toile de fond, en toile sonore, hein, de fond, le bruit de la planète qui approche. Et ça donne bien à entendre le ton du film où la planète, la fin du monde, est présente par le son, par le bruit, avant même d'assister à la fin du monde. Mais on a également ici cette volonté, parce que ce qu'exprime le personnage de Claire, cette volonté, alors que le monde va finir, alors que la planète va être détruite, de reconstruire une autre forme de monde, qui est un monde familial, humain, social. Comme si la fin du monde avait pour conséquence, enfin la perte du monde en tant que planète avait pour conséquence la volonté de resserrer des liens humains et de resserrer le monde humain en tant que tel, au sens métaphorique du terme.
Oui, comme vous le dites, il y a beaucoup de choses d'ailleurs dans l'extrait et dans le film, puisque la dernière image du film, c'est celle effectivement de la collision, du moment en tout cas qui précède la collision, et on retrouve Justine, Claire et le petit enfant sous une espèce de cabane de fortune, en quelque sorte ce que vous appeliez justement un nouveau monde que l'on essaie de constituer comme un refuge, qui bien évidemment ne sera pas un refuge, puisque le propre de la fin du monde, enfin de sa réalité, c'est d'abolir toute idée de refuge. Et il y a là certainement, de la part de Lars von Trier, l'idée d'inventer, malgré tout, un refuge symbolique hein, dans cette réunion, en quelque sorte, affective, familiale, contre la disparition du monde. Mais ce film dit aussi énormément de choses du point de vue, certainement, de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et de ressentir aujourd'hui. Il est d'ailleurs tout à fait révélateur qu'il appelle Lars von Trier « Mélancolia », la planète qui doit nous... censément nous faire disparaître, car la mélancolie, c'est depuis toujours la passion, si je puis dire, de la perte ou la souffrance liée à une perte à laquelle nous ne pouvons pas répondre. Et Claire, qui est précisément celle qui sait que le monde va finir, elle le sait d'emblée, c'est pour cela d'ailleurs qu'elle en est malade, c'est toujours un savoir de dément, en quelque sorte, le savoir apocalyptique. Claire sait que le monde va finir, contrairement aux scientifiques, hein, ou à celui qui figure le personnage du scientifique, Michael, c'est-à-dire
qui est interprété par l'acteur qui joue Jack Bauer.
Voilà,
je trouve un choix de casting excellent, puisque justement on est là dans le prosaïsme absolu, celui qui est terre à terre, qui invoque les scientifiques pour calmer son angoisse
et qui a 24 heures pour sauver précisément la planète. Mais il n'y arrive pas, puisqu'il découvre au bout d'un moment effectivement que les prédictions les pires sont avérées, et donc il se suicide. Mais celle qui ne se suicide pas, celle qui, à la fin du film, reprend le dessus et permet d'avoir justement, ou permet à Claire, donc à Charlotte Gainsbourg, de retrouver une sorte de force ou d'apaisement malgré la fin du monde, c'est la folle, entre guillemets, c'est la dépressive, c'est-à-dire celle qui sait d'une certaine manière ou qui l'a expérimenté dans sa propre maladie, que le monde est déjà fini. Et je crois que c'est ça la leçon, une des leçons les plus terribles sans doute de ce film. Il y en aura d'ailleurs d'autres qui sont Take Shelter, par exemple, c'est quand même un thème fondamental du cinéma, cela contemporain, la fin du monde. C'est que d'une certaine manière, et on le voit bien avec les scènes terribles avec Charlotte Rampling au début du film, hein, je vais pas
qui interprète la mère du personnage de Justine. Hein.
Ouais. Et qui est une cruauté absolue, que d'une certaine manière, la folie a été pour Claire une manière de se réfugier par avance contre ce qu'elle voit devant elle, c'est-à-dire ce délitement mélancolique, cette perte fondamentale du monde. Je dirais qu'aujourd'hui, où le catastrophisme ambiant est assez massif, ce n'est pas tant la fin du monde qui est le problème, que les sentiments diverses, les expériences diverses de perte en monde, du fait que il y a des processus, disons, d'aliénation, de perte de confiance en soi, de perte aussi de rapport au réel sensé, qui font que la fin du monde apparaît quelque part comme, en un sens, comme une évidence prochaine. Hein, je rappelle que c'est pas les Mayas qui croient à la fin du monde, ce sont nous qui exportons en Occident, du fait même, peut-être d'ailleurs, en Europe d'ailleurs, du fait même que l'Europe est légèrement ou dans un sens historique décadente, par rapport au reste du monde, qui importe donc cette image apocalyptique de la fin du monde, parce que tout semble s'effondrer par rapport à nos propres
principes.
C'est-à-dire
que la peur de la fin du monde telle que nous pouvons la constater aujourd'hui, et en effet c'est un thème récurrent dans le cinéma, pas seulement américain d'ailleurs, pourrait être comprise comme étant la transposition à une échelle catastrophiste d'une angoisse, elle, beaucoup plus subjective, qui est liée à la dissolution du lien humain. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça ?
Oui, ça renvoie à ce que c'est que finalement un monde. Un monde, ça n'est pas simplement du réel, si vous voulez. Un monde, c'est du réel sensé, c'est du réel ordonné, c'est du réel qui reçoit une signification. Bon. Donc le réel peut perdurer même quand il n'y a plus de monde, si vous voulez. C'est ce qu'on appellera l'acosmisme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du réel sans que ce réel fasse sens pour celui qui s'y trouve. Et c'est ce qu'on pourrait appeler effectivement la perte en monde. Et les expériences de perte en monde, d'aliénation, ce sont précisément des expériences, par exemple, psychiatriques. On parlait de Claire dans le film de Lars von Trier, ce sont des expériences des maladies, bien sûr, mais ce sont aussi des expériences sociales, le sentiment que précisément le monde ne répond plus aux attentes que nous faisons porter sur lui, le monde social, le monde de l'entreprise, le monde du travail, par exemple. Toute une série, si vous voulez, de phénomènes à la fois psychiques et sociaux qui sont présents dans les expériences contemporaines peut-être plus qu'elles ne l'étaient auparavant, où le monde avait, une apparence d'ordre, de hiérarchie, de cosmos. Bon, la modernité, c'est certain, la modernité procède d'un affaiblissement de ce thème du cosmos, des hiérarchies traditionnelles, des pouvoirs au profit d'un réel qui peut apparaître beaucoup plus insensé. Eh bien, je dirais d'une certaine manière que le fait que les peurs de fin du monde ou les peurs apocalyptiques reviennent sous une version ou sous une forme en quelque sorte hyper scientifique ou hyper technicisée aujourd'hui, crise écologique, crise sanitaire, crise sociale, eh bien, ce fait s'explique peut-être aussi par des expériences de perte en monde telles qu'on les a évoquées et telles que finalement la Claire dans le film de Lars von Trier en est la première victime.
Reste à savoir si cette peur de la fin du monde est induite par la modernité, par la multiplication des crises, par la dissolution d'un lien humain, ou si elle est, l'hypothèse est à prendre au sérieux, comme le fait Kant d'ailleurs dans un texte qui s'appelle La fin de toute chose, ou si cette notion même de fin du monde est constitutive de du rapport qu'a l'homme avec le monde. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas penser le monde sans que cela implique directement la fin de ce monde. Écoutez.
Pourquoi les hommes s'attendent-ils au juste à une fin du monde? Et celle-ci étant admise, pourquoi précisément à une fin dans la terreur pour la plus grande partie de l'espèce humaine? La première de ces attentes semble s'expliquer par le fait que la raison leur dit que le monde ne mérite de durer que dans la mesure où les êtres raisonnables qui le peuplent sont conformes au but final de leur existence. Dès l'instant que ce but risque de ne pas être atteint, la création elle-même leur paraît sans objet, comme une pièce de théâtre dépourvue de tout dénouement et qui ne permet pas de reconnaître une intention rationnelle. La seconde se fonde sur l'idée de la corruption de l'espèce humaine, trop profonde pour laisser place à l'espoir. Si bien que la seule mesure digne de la sagesse et de la justice suprême, à l'égard de la plus grande partie de l'humanité, serait d'y mettre fin, et une fin qui fut terrible. C'est pourquoi les signes annonciateurs du dernier jour, et comment une imagination excitée par des pressentiments importants manquerait-elle de signes et de miracles, sont tous du genre terrifiant. Certains les reconnaissent dans le triomphe de l'injustice, dans l'oppression des pauvres sous la débauche insolente des riches, et dans la disparition générale de la loyauté et de la confiance. Ou encore, dans les guerres sanglantes déchaînées à tous les coins du monde, etc. Bref, dans la dissolution morale et la montée rapide de tous les vices avec leur cortège de calamités, choses inconnues à ce qu'il leur semble des époques précédentes. D'autres les voient dans des changements inhabituels de la nature, comme des tremblements de terre, des tempêtes, des inondations ou des comètes et des météores. I got a feeling that the wind has changed and those leaves are starting to turn. Our hair's going gray and I must convey my figure has seen better days. Well, don't you despair, 'cause I got it made. A motto I choose to believe. If your life's a lemon, then make lemonade. There's always a final reprieve. It ain't the end of the world, buddy, life rolls along like before. There's a twist and a turn to each lesson you learn. First you're up, then you're bust, living life on a crust. But it ain't the end of the world, it's only a fly in your suit. If your car falls apart or a broad breaks your heart, it's a stink, just a kink, nothing more.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance où nous parlons de monde. Nous avons parlé du monde avant sa fin toute cette semaine et aujourd'hui, c'est la fin du monde, en tout cas, on essaye de la penser, avec le philosophe Michael Fessel, auteur notamment de Kant et l'équivoque du monde, paru aux éditions du CNRS. You first, 'cause I'm not quite done and we're still having fun just like wine, getting better every year. 'Cause it ain't the end of the world, buddy, life rolls along like before. It's a pain in the neck and a pain in the back, but it ain't the end of the world. So smile when they show you to the door. Michael Fessel, une chose est de postuler la fin du monde, en tout cas sa nécessité, une autre est et de pointer le caractère terrifiant de cette fin du monde. Comme le dit Kant dans le texte qu'on a entendu juste avant, pourquoi les hommes s'attendent-ils au juste à une fin du monde, et celle-ci étant admise, pourquoi précisément à une fin dans la terreur? Et là, la musique qu'on entend le montre bien, hein, c'est le chanteur le dit, ce n'est pas la fin du monde. Cette chanson est extraite de la BO d'un autre film, d'ailleurs, qui montre la fin du monde, qui s'appelle 2012, et qui lui est une autre façon de mettre en scène cette fin du monde, même si, comme dans Mélancolia, la fin du monde donne lieu à des considérations d'ordre éthique, familial et politique, mais montre bien justement voilà, cette différence d'attitude que l'on peut avoir face à un même constat. Pourquoi, à la limite, pourquoi est-ce que les représentations de fin du monde sont absolument terrifiantes et catastrophistes ?
Bien, en tout cas, dans l'hypothèse de Kant, la fin du monde n'a de sens que du point de vue de la morale. C'est-à-dire qu'elle ne peut être invoquée, je ne dis pas d'ailleurs espérée, encore moins provoquée, mais invoquée, pensée, pour être précis, que dans le cadre de la morale. C'est-à-dire que on peut effectivement se faire une représentation de la fin du monde comme d'un événement positif, en quelque sorte, à partir du moment où on considère, ce qui pour Kant est partiellement vrai, que l'histoire des hommes est faite du mal, elle est faite du péché, elle est faite de la souffrance, elle est faite donc de tout ce qui peut concourir d'une certaine manière à espérer cette fin du monde. Bon. Mais le propre, et c'est très important de noter que Kant écrit, qui est un philosophe rationaliste, des Lumières, etc., bien sûr, bien connu, mais enfin bien connu comme tel, je veux dire, et qui en même temps écrit un texte intitulé La fin de toute chose, assez tardivement dans sa vie.
En 1794, donc c'est un de ses derniers écrits.
Un de ses derniers écrits, mais qu'il ressent la nécessité, alors que ça peut paraître étonnant, de traiter de cette question de l'apocalypse ou de la fin du monde. Bon. Pourquoi le fait-il ? Parce qu'il affirme quelque chose de très, très important. Il affirme qu'il est dans la nature de la raison humaine de, en quelque sorte, de fantasmer cette fin. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est que la raison ? Pour lui, celle dont il va produire d'ailleurs, ou dont il a déjà produit à ce moment-là, la critique. La raison, c'est la faculté de l'homme qui veut se porter à l'absolu. C'est-à-dire, pour le dire d'une autre manière, la faculté de l'homme par laquelle il veut dépasser, l'homme tente de dépasser le temps, la temporalité. Et la fin de toute chose, c'est la fin du temps. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort chez Kant entre la raison humaine et ce fantasme, ce désir de nous représenter l'éternité. L'éternité, si vous voulez, ça n'est pas simplement l'immortalité, c'est pas le temps qui dure indéfiniment, non, c'est précisément l'abolition du temps. Donc je dirais que la raison, pour Kant, elle est spontanément acosmique. Ça veut dire qu'elle est spontanément, elle cherche spontanément à dépasser le monde. Et chez Kant, ceci est un défaut, si je puis dire. C'est-à-dire que son texte, il l'écrit pour montrer que nous ne pouvons pas connaître la fin du monde. Encore une fois, le seul sens qu'on peut lui donner est d'ordre moral. Bon, c'est le jugement, c'est le jour du jugement. Agissons, vous demandiez tout à l'heure, qu'est-ce que cela veut dire agir dans l'idée de la fin du monde ? Eh bien, pour Kant, cela ne peut vouloir dire qu'une chose, agissons comme si tous nos actes devaient un jour, alors un jour qui ne sera plus un jour, un temps qui ne sera plus un temps d'ailleurs, faire l'objet d'un jugement moral. Bon, mais pour le reste, la fin du monde, comme événement, si vous voulez, est totalement impensable. Autrement dit, que fait Kant ici ? Il neutralise l'image de l'apocalypse, il la vide de son sens pour montrer qu'elle relève en quelque sorte de la démesure de la raison humaine qui cherche toujours à produire un savoir, une connaissance au-delà du temps, en dépassant le temps, ce qui est pour lui le propre de la métaphysique qu'il réfute ou qu'il critique et dont à laquelle il fait le reproche d'être dogmatique.
Mais est-ce qu'il s'intéresse ici à l'apocalypse, donc c'est-à-dire à la fin du monde qui en annonce un nouveau, ou au contraire à la fin du monde en tant que fin définitive et donc à une forme plutôt de catastrophe ?
Ce qu'il entend par fin de toute chose, c'est la fin du temps, c'est-à-dire de ce qui est la condition même de la pensée pour l'homme, ou disons de la connaissance. Autrement dit, pourquoi ne pouvons-nous pas connaître quelque chose comme la fin du temps, l'abolition du temps ? Parce que pour connaître, nous avons besoin du temps, et d'un temps qui est linéaire, d'un temps qui est fini. C'est important parce que, d'une certaine manière, c'est une manière pour lui, et là ça devient très actuel, c'est une manière pour lui d'affirmer que la modernité met en suspens cette question de la fin du monde. D'autres philosophes modernes comme Hobbes seraient sur la même ligne en un sens, c'est-à-dire de montrer que pour faire de la politique, pour penser la morale, pour aborder le réel, il faut mettre en suspens toutes ces représentations fantasmatiques sur la fin du monde, toutes ces conceptions terrifiantes, en effet, il y insiste sur ce qui peut advenir de l'humanité. C'est un rappel simplement à la finitude. Nous ne savons pas, en quelque sorte, si le monde va finir. Aujourd'hui, nous le savons pour des raisons scientifiques, mais nous ne savons pas quand il finira. Et l'erreur, voire la faute d'ailleurs, est d'agir poétiquement, moralement, dans l'horizon de cette fin du monde que nous ne connaissons pas.
Ce qui montre bien que cet horizon n'est pas proprement rationnel, même s'il a son origine au sein de la raison, mais concerne également l'imagination, parce qu'il y a toute une rhétorique hein, de la catastrophe, les théories de la catastrophe confèrent un pouvoir tout spécial à l'imagination, l'imagination du pire, qui elle est préjudiciable en tant que telle pour l'action collective notamment.
Oui, ben c'est-à-dire que ce que la raison ne peut pas connaître, si je reprends les termes kantiens, l'imagination néanmoins va tenter d'en donner toute une série de symboles. Et là aussi, j'aime beaucoup citer la phrase latine que Kant cite lui-même souvent, « Fiat justitia pereat mundus », autrement dit que la justice soit le monde dût-il en périr, c'est-à-dire en quelque sorte, là on a, même de manière violente, parce que c'est une phrase qui, quand on l'énonce aujourd'hui, au moment de la crise climatique ou du catastrophisme en tout genre, évidemment, peut être entendue comme littéralement criminelle, mais c'est une phrase qui mérite néanmoins d'être méditée, à savoir que la question n'est peut-être pas tant de savoir si le monde doit finir, quand il va finir, ou que faut-il faire pour qu'il ne finisse pas. La question plus fondamentale, en tout cas celle qui est d'inspiration kantienne, et que je reprendrai à mon compte, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'un monde mérite d'être vécu, d'être maintenu. Vous savez, aujourd'hui, on dit souvent nous en avons fini avec les théories du progrès, nous ne croyons plus dans les philosophies de l'histoire, et en quelque sorte, le monde que nous avons voulu tellement transformer, eh bien, il faut le préserver, simplement le préserver. Bon, à cela, en accordant une certaine valeur à cette éthique conservatrice, si je puis dire, ou de la préservation, on peut tout de même rappeler ou noter que, d'un point de vue philosophique ou du point de vue même de la philosophie moderne, tout réel ne mérite pas d'être conservé. Que faire un monde, c'est autre chose que simplement maintenir en l'état un réel qui peut être effectivement satisfaisant seulement à la mesure du fait qu'il existe déjà.
Et d'ailleurs, la citation que Kant reprend à son compte, la citation latine qu'il reprend à son compte, donc que la justice règne, le monde en périr, renvoie à une citation de Blanchot qui, dans son texte qui s'appelle l'Apocalypse des soies, écrit « La vie ne doit pas être préférée aux raisons de vivre ». Et on en revient. Alors ça, c'est assez fascinant de voir comment la réflexion sur la fin du monde découle finalement sur une réflexion sur les formes que nous donnons au monde plus qu'à leur contenu quasiment.
Bah, cela renvoie, si vous voulez, à ce que nous appelons monde précisément.
Parce que là, la définition de monde a changé depuis le début de l'émission.
Elle a changé parce que c'est le propre de plusieurs philosophes de l'avoir redéfini. Mais déjà, premièrement, le monde, ça n'est pas la nature. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je dis ici. Hein. Je ne dis pas que tous les philosophes seraient sur la même position. Mais en tout cas, on ne peut pas dire simplement que la préservation de la nature, la préservation écologique, suffit à faire monde. Vous avez parlé hier d'Hannah Arendt. Voilà typiquement une philosophe qui a donné une conception strictement politique du monde. Le monde, c'est l'espace, je n'y reviens que qu'un instant, qui sépare les individus, l'espace entre les individus, l'espace intermédiaire, comme elle le dit. Autrement dit, le monde est d'abord politique. Il n'y a de monde que là où il y a entre les individus une pluralité fondée sur le débat, la discussion, etc. Bon, c'est une définition possible du monde. Mais on voit déjà que, si on en reste rien qu'à celle-là, je ne dis pas que c'est celle sur laquelle il faut nécessairement aboutir, mais si on en reste à elle, le monde, ça n'est pas simplement la nature, c'est-à-dire la vie précisément, dans ses régularités, dans ses lois, dans son ordre. Pour qu'il y ait un monde, je dirais, là au minimum, un monde c'est au moins la nature plus l'homme, la nature plus l'humanité, c'est-à-dire une nature qui laisse néanmoins la place, alors si en termes kantiens on dirait, à la liberté, à quelque chose qui dépasse la nature mais qui ne dépasse pas pour autant le monde, hein, si la nature c'est tout entière du côté de ce qui est déterminé, de ce qui ne laisse pas de place à la liberté humaine, eh bien on peut dire que l'homme c'est cet être qui introduit dans la nature de la liberté, par la morale mais aussi par la politique, par le droit, et qui donc fait un monde, constitue un monde. Là aussi je cite de mémoire Kant lorsqu'il dit, je crois que c'est dans la critique de la faculté de juger, le monde sans l'homme serait pareil à un désert, c'est-à-dire qu'il serait bien réel, mais précisément il ne recevrait pas d'une autre instance que lui, à savoir l'homme précisément, ou la liberté, un sens pratique, un sens moral ou un sens politique valable.
Mais on en revient donc à la question de ce qu'il reste, ce que l'homme peut faire à partir du moment où il sait que le monde va finir, puisque là, on partait de cette idée donc chrétienne de la fin du monde, de l'apocalypse qui doit conduire à l'avènement d'un autre monde. On en arrive à l'idée de la dissolution, ou du fait que le monde humain lui-même se dissolve. Et dans les deux cas, la question reste la même. Qu'est-ce qu'il incombe à l'homme de faire? Que peut-il faire? Et il me semble que dans le second cas, vous dites, nous pouvons faire monde. Il revient à l'homme de faire monde. L'homme est responsable. Autant dans l'Apocalypse, il doit attendre la fin du monde et après il se pose la question de savoir ce qu'il peut faire. Mais là, lorsqu'il fait monde ou lorsqu'il ne peut plus faire monde, il est responsable.
Bien sûr qu'il est responsable de... Bon, la plupart des penseurs, disons, de l'apocalypse contemporaine font référence, en particulier Gunther Anders, à l'ère nucléaire.
Voilà, lui suffit d'appuyer sur un bouton pour déclencher la fin du monde.
Voilà, nous serions, en tout cas dans cette hypothèse, passés à l'apocalypse réelle, si je puis dire, et non plus simplement à l'apocalypse rêvée. Alors que, bien évidemment, pour faire monde, il faille, comme condition négative, si vous voulez, que le réel soit perdure ou persiste, c'est-à-dire que que nous ne soyons pas annulés ou annihilés totalement par une catastrophe de type nucléaire, c'est évident. La question est de savoir si faire monde, ou en tous les cas agir et penser politiquement, doit être exclusivement référé à la sauvegarde, à la survie de l'humanité ou du réel. Est-ce que cela suffit, en quelque sorte? Est-ce que ce temps qui est le nôtre, qui est un temps, effectivement, enfin, quand je dis d'ailleurs le nôtre, encore une fois, je fais essentiellement référence à l'Occident. Je ne suis pas sûr que la fin du monde soit un thème très présent en Chine à l'heure actuelle, ou bien même en Amérique du Sud, par exemple. Bon. Mais est-ce que le catastrophisme peut devenir légitimement un principe, une limite suffisante pour définir l'action. Je dirais, est-ce qu'éviter la catastrophe, est-ce que ces politiques qu'on appellerait d'ailleurs volontiers des politiques du moindre mal, est-ce que ces politiques qui ont totalement laissé de côté l'idée de progrès ou l'idée d'une transformation du monde, est-ce que ces politiques sont suffisantes pour, d'abord, pour rencontrer l'adhésion des hommes, d'une part, et d'autre part, pour définir ce qui est juste? Là, on peut avoir un doute certain. Je citerai là aussi un autre penseur qui a beaucoup réfléchi sur la fin du monde, c'est Benjamin. Walter Benjamin, qui disait en substance que la vraie catastrophe, c'est que rien ne change.
Mais alors justement, rien ne change. Donc ça, là, ce que vous venez de dire montre bien l'importance aussi d'une réflexion, de la dimension politique dans la réflexion de la fin du monde. Puisque, à bien vous entendre, il y aurait une récupération du catastrophisme ambiant par la mise en œuvre d'une politique qui se jouerait justement de cette angoisse-là pour justifier la multiplication, disons, de principes de précaution, ou en tout cas de mesures qui conduisent les hommes à être particulièrement prudents, à mesurer leurs actions au nom, soi-disant, d'une paix sociale ou d'un bien-être général, alors qu'en fait, elles sont récupérées au service d'une idéologie. Ce qui pose bien la question de savoir comment la catastrophe en tant que telle, non seulement est vécue par l'homme, mais comment elle peut donner lieu... elle peut modeler le vivre ensemble en tant que tel.
Bien sûr, l'image de la catastrophe, ce n'est pas qu'elle me gêne en tant que telle, si vous voulez. Elle a au moins le mérite, ce thème de la catastrophe a au moins le mérite d'insister sur ce qu'on pourrait appeler la fragilité humaine. Hein. C'est-à-dire sur le fait qu'en effet, nous ne sommes plus autant, alors peut-être de Kant en un sens, quoi qu'on vient de voir qu'il avait lui-même pensé la fin des temps, mais autant des Lumières qui pensent que spontanément, en quelque sorte, l'histoire suivra un cours sans cesse progressiste, sans que nous ayons à remettre en cause nos propres actes. Il est certain que nous ne vivons plus dans ce temps-là parce que nous avons constaté, et là les drames, les tragédies du XXe siècle en sont un signe évidemment irrécusable, nous avons constaté que, en quelque sorte, entre le progrès moral et le progrès technique, il y avait un écart, un hiatus que nous étions tout à fait capables d'utiliser, que l'humanité était tout à fait capable d'utiliser les progrès scientifiques et techniques dans le sens de sa propre destruction. Donc, je dirais que si la catastrophe ou si le catastrophisme écologique, politique, social, etc., a le sens simplement de rappeler à la finitude de l'humanité et aussi à la finitude de la politique, je n'y vois pas de problème. Si en revanche, on entend par, et c'est un petit peu la tendance, si on entend par catastrophisme un principe qui doit limiter par avance, définir par avance même l'action politique, le but de l'action politique, alors j'y vois tout de même un problème, je dirais, de démocratique. C'est-à-dire que, en règle générale, la politique suppose, démocratique tout du moins, que l'on délibère sur les fins et pas seulement sur les moyens. Si l'on suppose que la fin exclusive, c'est précisément d'éviter la fin du monde, eh bien, il ne reste plus, en quelque sorte, qu'à donner à qui ? Eh bien, aux experts, évidemment, le soin de décider quels seront les moyens de préserver, dans le domaine, encore une fois, écologique, de l'armement, etc., de préserver la nature.
Donc, est-ce que c'est en ce sens que, lorsque je vous ai posé la question au tout début d'émission de savoir si vous aviez peur de la fin du monde, vous m'avez répondu non, mais j'ai peur des peurs de la fin du monde ?
Oui, je pense que ces peurs, qui sont des peurs, si vous voulez, qui se rapprocheraient beaucoup plus de l'angoisse, puisqu'elles sont radicales, puisqu'elles n'ont pas d'objet précis, hein, la fin du monde, par définition, c'est un événement dont nous ne serons pas les témoins, mais seulement les victimes, eh bien, ces angoisses-là sont incompatibles, contrairement aux peurs, je dirais, circonscrites. Hein, nous pouvons avoir des peurs circonscrites, et tout le travail du politique, c'est de ramener de l'angoisse à la peur circonscrite, c'est-à-dire dont on peut éventuellement imaginer un traitement, dont on peut imaginer une lutte efficace. Mais en rester à une angoisse tellurique, à une angoisse absolue, pour aborder le vivre ensemble, comme on le dit parfois de manière un petit peu naïve, eh bien, cela me paraît être extrêmement préjudiciable du point de vue de la finalité même de la politique.
Demain, c'est la fin du monde. Reste encore dans mes bras. Mon amour, demain, partout à la ronde, le bonheur s'en ira pour toujours. Dans l'air, sur la terre, sur l'onde, la vie plus jamais ne sera. Demain, c'est la fin du monde. Reste encore mon amour dans mes bras. J'entends sonner.
Merci beaucoup, Michael Fressen, d'avoir terminé avec nous cette semaine en nous parlant de la fin du monde. Alors, je renvoie notamment deux de vos ouvrages, hein, parmi les nombreux ouvrages que l'on vous doit. Alors, un ouvrage qui s'appelle « État de vigilance, critique de la banalité sécuritaire » aux éditions du Bordelot, qui est un lien direct avec le thème avec lequel nous avons terminé cette émission. Également, « Kant et l'équivoque du monde » aux éditions du CNRS. Et j'annonce également ce colloque international intitulé « Figure de l'acosmisme » que vous organisez avec Claude Romano, qui aura lieu le 15 février à Dijon, le 16 février à Paris. Pour toutes les informations, évidemment, rendez-vous sur le site internet des Nouveaux Chemins de la Connaissance.
S'achève et la joie s'en ira pour toujours. La nuit règnera profonde et puis ce sera l'au-delà.
C'était Le monde avant sa fin, la fin du monde. Un numéro des Nouveaux Chemins de la Connaissance d'Adèle Von Rett avec le philosophe Michael Fossel. Une émission diffusée pour la première fois le 9 février 2012, réalisée par François Connac.